7 heures partout en Côte d'Ivoire. En ce moment, Canal Plus vous offre 15 jours à tout Canal Plus pour tout réabonnement à votre formule habituelle.
Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bienvenue à tous. Sur population carcérale, le gouvernement affirme n'avoir jamais nié cette réalité, mais demeure détenteur des chiffres de la Côte d'Ivoire, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres hier. Troisième congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il s'agira de redéfinir les contours de la fonction dans un espace en constante évolution. Et vu hors de nos frontières, au moins 12 militaires ont été tués dans 3 attaques distinctes au Niger. La revue des titres de vos tabloïdes de ce jeudi sera l'apanage de Jean-Claude Comé. Et dans un peu plus d'une quinzaine de minutes, l'attaque terroriste mardi au Mali fera l'objet de l'invité de la rédaction avec William Assanvo, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité ISS, qui répondra aux questions de Soro Adams. Voilà pour nos grandes lignes. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur Radio de la Paix. On ouvre cette édition avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs mesures générales et des communications étaient à l'ordre du jour. Junior Cardin pour le compte-rendu.
Au titre des mesures générales, le Conseil a adopté un décret sur la ratification de l'accord de près de 30 milliards de francs CFA afin de désenclaver des zones du nord de la Côte d'Ivoire. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement.
L'accord de prêt entre la BOAD et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Petit-Nation-Kafolo-Téini. Ce projet vise à désenclaver les différentes localités et à fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins.
Au titre des communications, entre autres décisions, le gouvernement s'est penché sur les coûts des exonérations fiscales et douanières à fin juin 2024.
Ces exonérations comprennent 174,2 milliards de francs CFA pour la fiscalité de porte et 100,2 milliards de francs CFA au titre de la fiscalité intérieure. Les secteurs d'activité ayant bénéficié des montants d'exonération les plus significatifs sont principalement l'industrie, les services, l'administration et les BTP.
Dans les échange avec les journalistes, le porte-parole du gouvernement s'est longuement étendu sur la question de l'incompréhension entre le ministère de la Justice et le Conseil national des droits de l'homme relativement à la surpopulation carcérale.
Nous n'avons jamais nié que nous avons un problème de surpopulation carcérale. Ici, la première problématique, c'est la question des chiffres. Les chiffres de la Côte d'Ivoire sont détenus par le ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice, de façon régulière, met à jour ces chiffres.
Du 20 au 27 septembre prochain, le vice-président de la République prendra part à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, au siège de l'institution.
L'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville était au centre de la conférence de presse hebdomadaire Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Placé sous la tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense, l'EMPT a en son sein une filière d'enseignement technique et une filière d'enseignement général. Et pour cette année 2024-2025, des innovations sont annoncées. Pour en parler, écoutons le commandant École, le colonel Séraphin Tanoué-Blé, dans les propos recueillis par Matatouré.
Le nombre total d'élèves à l'EMPT, nous allons tourner autour de 646 élèves. L'école, pour cette année, va ouvrir ses premières classes, la seconde T1, qui vont déboucher sur les séries E et F1 à venir. Cela participe de la vision du commandement d'absorber des élèves, des viviers, qui sont compétents pour permettre à l'institution militaire de disposer des cadres compétents. Et à côté de ces innovations, c'est aussi l'acquisition des équipements de pointe pour permettre à nos élèves d'avoir la meilleure formation possible. La plus-value pour les élèves qui entrent à l'école militaire préparatoire technique Bingerville, c'est la gratuité totale, pas partielle, totale. Les élèves sont en régime d'internat. Ils sont là pour m'exprimer en des termes très simples. Ils n'ont rien à payer. Ils sont logés gratuitement, ils sont nourris gratuitement. Ils disposent de l'entièreté des équipements, des fournitures scolaires. Ils sont pris en charge sur le plan sanitaire entièrement.
À l'instant, le commandant école de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique, le colonel Séraphin Tanoué-Blé. Au nord-est de la Côte d'Ivoire, l'ancien hall d'information de la ville de Bouna a été rénové et équipé, puis cédé comme bureau à la cellule civilo-militaire du département. C'est une initiative de l'association Cogenta dans le cadre de la mise à échelle du projet Secunor d'appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire, un projet financé par l'Union européenne. Jérôme Kouassi dans le Bunkani pour la correspondance.
L'objectif des travaux de réhabilitation des locaux des CCM de la région avec Krako Kobina, il est le président de la CCM de Dropo.
À l'effet de renforcer la collaboration entre les civils et les FDS.
Ce nouveau bureau est la preuve qu'il y a des hommes qui travaillent dans l'ombre pour la consolidation de la paix pour Wangrawa Asiata, habitante de Bouna.
C'est-à-dire qu'on peut se retrouver pour des activités, on peut se retrouver pour des réunions, montrer à la population qu'il y a des personnes vraiment ressources qui sont là pour les sensibiliser sur la sécurité même à Bouna ici.
Et surtout penser des activités à mener pour améliorer la collaboration entre les populations et les FDS pour la sécurité de tous, se réjouit Adama Kunga, chargé de communication.
Voir ensemble ce qui pourrait être des perspectives heureuses afin que véritablement la cellule civilo-militaire puisse fonctionner comme on le souhaite pour le bien-être des populations.
Ce nouvel espace permettra de multiplier en son sein des activités d'interaction entre FDS et population. Le souhait de Cissé Lamine, le président de la CCM, cellule civilo-militaire de Bouna.
Pour que les corps habillés qui seront au repos puissent aller se détendre là-bas avec les jeunes de la ville, le rail des jeunes de Lido, d'Amier, des jeunes de Boule, à Walé. Ça serait un coin de rencontre pour que les civils et les corps habillés puissent avoir un brassage entre eux. C'est notre souhait, ça.
Trois casernes de jeunes amérés fort équipées ont été construites dans la région de Bouna dans le cadre de la mise à échelle du projet Secunor, sécurité du nord de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
10 ans après l'entrée en vigueur du règlement numéro 5 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant leur profession, les avocats de la zone sont en conclave pendant 3 jours pour faire le bilan de la mise en œuvre de cette réglementation communautaire. Le thème choisi pour ce 3e congrès des avocats de l'UEMOA est 10 ans d'application du règlement numéro 5, retour vers le futur de l'avocature de l'espace UEMOA. Les détails avec Tatouri.
Ces assises vont faire le bilan du règlement numéro 5 de l'UEMOA et réfléchir à comment renforcer la cohésion des systèmes juridiques de l'Union. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara.
Avant l'adoption de ce règlement, les disparités des législations nationales rendaient difficile la collaboration entre les avocats des différents pays de la zone.
Jean-Sansan Kabilé est le garde des Sceaux.
De redéfinir les contours de la profession d'avocat en lien avec les besoins nouveaux des usagers dans un espace UEMOA en constante évolution.
Largement évoqué également la question des standards de formation uniforme. Maître Claude Maintenon, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire.
Un des défis, ça va être d'uniformiser l'examen du CAPAG, l'examen d'avocat. Le défi, c'est que dans les 8 pays, nous ayons la même façon d'organiser le CAPAG.
La plupart des bâtonniers de l'Union sont présents, dont ceux de l'AES, interrogés sur la situation de leur pays.
Cadre mon standard sur le bâtonnier du Niger. On sait que dans nos pays, il y a quelques difficultés qui font qu'on redoute que nos États puissent sortir de ces communautés.
Siaka Niambad, bâtonnier du Burkina. Être dans l'espace UEMOA comme avocat, une chance extraordinaire parce que je peux me promener dans tous les pays de la zone, aller plaider partout sans difficulté. Nous demeurerons dans la zone UEMOA.
Je suis le bâtonnier du Togo, Claude Folli Adama. Le problème qui se pose, c'est politique. Il y a lieu de retenir quand même que les États ont des conventions.
Abidjan restera donc capitale des barreaux de l'UEMOA jusqu'au 20 septembre prochain.
Au centre de la Côte d'Ivoire, le conseil municipal de Boaké, réuni samedi dernier au titre de sa 3e session 2024, a adopté son programme triennal 2025-2027 avec un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Les détails avec le maire Amadou Koné.
Pour la fin de cette année, on puisse faire en sorte que ça aille dans le budget modificatif pour mettre un accent particulier sur Sokora et Kotika, où les routes sont considérablement dégradées. Donc je pense que ça c'est prévu. On va continuer ça pendant le programme triennal. On a décidé donc de porter 100 km dans la ville chaque année. Donc le reprofilage, une partie moins importante, environ 30 km de reprofilage lourd. Et donc j'ai demandé que l'exercice soit fait pour qu'on trouve le financement, donc dans le budget. Donc cet exercice qui a été fait, donc nous permettra de faire ça. Si on veut maintenir ces routes-là, il faut que la question de curage caniveau soit réglée. Donc j'ai demandé, la municipalité a demandé au service technique de nous sortir le linéaire de caniveau dans toute la ville et qu'on fasse une programmation pour que durant donc, le reste du mandat, on puisse curer tous les caniveaux donc, dans la ville de Boaké. Donc ça, logiquement, je ne l'ai pas revu, ça devra figurer également.
Les propos du maire de Boaké, Amadou Kouéné, ont été rapportés par Joseph Assalé, notre correspondant dans le Boaké. Hors de nos frontières, au moins 12 militaires nigériens ont été tués et plus d'une trentaine d'autres blessés au cours de deux attaques séparées et dans l'explosion d'une mine artisanale entre dimanche et mardi, a déclaré l'armée mercredi à la télévision nationale. L'attaque a été revendiquée par un nouveau groupe armé, notamment le Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice, MPLJ, qui dit avoir tué 14 soldats et 2 gendarmes et avoir perdu 2 de leurs combattants. Le MPLJ, créé début août, est une scission du Front Patriotique pour la Libération, un mouvement rebelle luttant pour la libération du président nigérien Mohamed Bazoum. Et en sport, du 25 septembre au 7 octobre 2024, Abidjan va abriter la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Le ministre délégué des Sports, Adjé Silas Metch, a donné l'information hier à la Direction Générale des Sports. C'était en présence des responsables de fédérations et de journalistes.
L'organisation de la Coupe du Monde de Maracana, la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde, se déroulera dans notre pays du 25 septembre au 7 octobre 2024 au Parc des Sports de Trècheville. Cette première édition verra la participation de 16 pays venant de 4 continents, dont 10 pays africains, 2 européens, 3 pays américains du Nord et 1 caribéen. Il y a donc 4 poule. La poule A est constituée de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun et de la Belgique. Notre pays est devenu un véritable havre pour les grandes compétitions sportives internationales. Au-delà des infrastructures modernes, les Ivoiriens ont montré qu'ils sont un peuple hospitalier, accueillant et ouvert d'esprit. Ces valeurs sont reconnues par tous ceux qui ont eu la chance de visiter notre beau pays. C'est dans ce même état d'esprit que nous nous préparons à recevoir une nouvelle compétition de taille, la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Contrairement aux compétitions précédentes, la Côte d'Ivoire n'a pas candidaté à l'organisation de cet événement. Ce sont les pays membres de la Fédération internationale de Maracana Association qui, de façon unanime, ont confié cette tâche à notre pays.
Vous écoutez à l'instant le ministre délégué des Sports, Adjé Silas Metch. La revue des titres de vos tabloïdes de ce jeudi est l'affaire de Jean-Claude Comé que nous accueillons. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Sachez-le, de grands changements arrivent au niveau de la justice, des petits métiers et de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est en ces termes que résume en titre Fraternité Matin des décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Un conseil qui, entre autres points, a passé en revue, indique le mandat, le PJGOUV, le programme jeunesse du gouvernement, qui a déjà impacté plus de 648 000 jeunes en 2024, rapporte le confrère. Apportant des précisions, l'Avenir écrit que ce sont 648 335 jeunes qui sont impactés par le PJGOUV à la date du 30 juin 2024. Dressant le bilan de ce programme, justement, le Patriote déclare que le PJGOUV est un succès total. Et comme pour doucher cette joie de son confrère, le Nouveau Réveil sur un tout autre sujet en lien avec le social nous apprend que des milliers d'élèves ont été jetés à la rue en pleine rentrée scolaire dans une affaire de libération des forêts classées. S'inscrivant lui aussi dans la critique de la gestion du RHDP, le journal Génération Nouvelle affiche que le GPS de Guillaume Soro pointe la responsabilité de l'État sur des dossiers comme l'augmentation des cas de suicide, la révision de la liste électorale, le prix Borchamps du cacao. Le temps de cette affirmation du GPS signale que Guillaume Soro, à propos de la liste électorale, met en cause la crédibilité de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le confrère proche du PPACI pour mémoire écrit que c'est le 19 septembre 2002 qu'éclatait une rébellion en Côte d'Ivoire et le journal rappelle à ses lecteurs ce que Gbagbo avait confié à ses proches. Et puis Linda Balier, vous l'avez sûrement appris, il y a eu une récente hausse des taxes d'importation au port autonome d'Abidjan et selon Soirinfo et l'Inter, suite à une réunion entre les responsables du port et des syndicats, la mesure d'augmentation des frais d'importation des véhicules est suspendue. Commentant, le nouveau réveil écrit, port autonome d'Abidjan, hausse de la taxe sur l'importation des véhicules, la direction recule et suspend la taxe de 150 000 francs CFA. Ce journal, tout comme Le Temps et Supersport, annonce aussi la saisine du TAS, du tribunal arbitral du sport, par l'Africa Sport d'Abidjan, dans l'affaire qui l'oppose à la Fédération ivoirienne de football. Le verdict sera connu avant la reprise du championnat, selon Kyoté Anarsis, le président du club, qu'on peut lire en une du Nouveau Réveil. Excellente lecture à tous.
Merci à vous, Jean-Claude Comé, pour cette revue des titres. Prochain rendez-vous avec vous, ça sera dans l'édition de 8h pour le même exercice. Dans l'invité de la rédaction, on parle de l'attaque terroriste mardi dernier au Mali. Selon William Assonvo, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité, ISS, qui répondra aux questions de Soro Adams, cela témoigne de la capacité des terroristes à mener des attaques significatives contre les cibles militaires. Un entretien à suivre maintenant.
Bonjour, monsieur William Assonvo.
Bonjour, monsieur Soro.
Le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, annonce qu'il va se tourner vers l'Afrique côtière dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Autrement dit, la coopération avec les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest va être renforcée. Qu'est-ce que cela vous inspire face à la situation sécuritaire du moment en Afrique, de l'Ouest surtout?
Alors, il faut peut-être signaler que ce n'est pas en tant que telle une nouveauté. La coopération américaine au niveau des pays côtiers a débuté il y a déjà plusieurs années. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas une nouveauté. Mais ce à quoi on assiste depuis, on va dire, ces deux, trois dernières années, c'est véritablement une volonté des Américains de renforcer cette coopération avec les pays côtiers, dans la perspective donc de la menace de l'expansion de l'insécurité qui initialement était dans le Sahel, donc vers ces pays côtiers. Et d'autant plus que la position des Américains au niveau des pays du Sahel est quelque peu remise en question. En tout cas, la coopération avec les pays maintenant de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a connu quelques phases de turbulence avec le retrait de ses troupes du Niger. Et donc, il y a une volonté de pouvoir renforcer la coopération avec les pays côtiers dans la perspective de pouvoir apporter une réponse aussi efficace et durable que possible à l'insécurité au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Alors, le commandement américain va-t-il abandonner ces pays du Sahel?
Alors, non. Bien qu'on a assisté à un retrait des troupes américaines à la fermeture d'une de leurs bases importantes au Niger, il y a eu des déclarations d'autorités militaires américaines, notamment du commandement pour l'Afrique, indiquant que la coopération avec les États du Sahel allait quand même rester demeurée. Maintenant, la forme qu'elle va prendre, son ampleur, ça reste encore à vérifier, mais toujours est-il qu'il y a une volonté des Américains de pouvoir continuer à coopérer avec les États du Sahel.
Parce que le terrorisme vient principalement de ces zones.
Oui, parce que ces pays sont, on va dire, un peu à l'épicentre de cette insécurité qui menace d'affecter les pays côtiers. Donc, ces pays restent centraux dans la lutte contre ces phénomènes au niveau régional. On ne pourra pas avoir des réponses efficaces, même au niveau des pays côtiers, si il n'y a pas une action qui perdure au niveau des pays du Sahel.
Et l'attaque survenue à Bamako le 17 septembre 2024, c'est de nature à inquiéter, non?
Alors, oui, forcément, l'ampleur de l'attaque, les cibles qui ont été visées, c'est-à-dire l'école de gendarmerie et aussi un camp militaire ou une base aérienne au niveau de Bamako, représentent une action d'envergure par son audace et aussi par la cible. Donc là, habituellement, ils s'attaquaient à des cibles qu'on pourrait qualifier des cibles molles, des hôtels, en tout cas des lieux où il y a des populations civiles. Là, c'était une attaque contre une cible dure, donc contre des militaires. Ce n'est pas pas la première, mais c'était une attaque significative. Donc forcément, ça s'inquiète, ça se pose des questions quant à la capacité des autorités de pouvoir véritablement apporter une réponse efficace et durable. Mais je pense qu'il ne faudrait pas en conclure nécessairement à l'échec des autorités maliennes, mais mettre ça à l'actif de la capacité de ces groupes-là à pouvoir encore mener des attaques significatives, y compris contre des cibles militaires. Je crois que c'est un rappel de cette capacité de ces forces à pouvoir représenter une menace pour la région.
William Assanvo, avec ce qui est intervenu à Bamako, la Côte d'Ivoire doit-elle s'inquiéter ?
Alors, je dirais que même en l'absence de cette attaque, il y a véritablement la nécessité de se préoccuper de la réalité de cette menace. Il n'y a pas très longtemps, le nord-est de la Côte d'Ivoire a été significativement sous la menace de ces groupes-là.
Quelle zone précisément ?
La région du Bounkani, la région du Tchologo particulièrement. Donc ça ne remonte pas très longtemps. Et même à l'absence d'attaque dans cette zone, il y a toujours, je pense, la nécessité de prendre conscience de la réalité de la menace et du fait que elle n'a pas totalement disparu et qu'il est important de continuer à se préoccuper de cette menace-là. Donc, véritablement pour dire que l'attaque à Bamako d'hier rappelle, y compris pour la plébée comme la Côte d'Ivoire et les autres pays de la région, de la persistance et de la réalité de cette menace au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso aussi. On se rappelle qu'au niveau du Burkina Faso, au cours des dernières semaines, il y a eu le massacre important au niveau de la localité de Bassalgo dans le centre nord. Donc, tout s'est fait nous rappelle que la région est sous la menace de groupes armés terroristes, de groupes extrémistes violents.
Et donc, Côte d'Ivoire, vigilance, vigilance au quotidien.
Plus qu'une vigilance, il est important de passer à l'action dans la perspective de pouvoir prévenir cette menace de s'implanter dans la région. Il y a une dimension qui me semble aussi importante, c'est véritablement la nécessité de trouver les voies et moyens de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est véritablement une dimension qu'il est important de pouvoir redynamiser.
Je vous remercie, M. William Assanvo.
Je vous en prie, M. Soro.
C'était l'invité de la rédaction, William Assanvo, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité, ISS, qui répondait aux questions de Soro Adams. Et c'est ici que prend fin ce journal, le rappel des titres. Surpopulation carcérale, le gouvernement affirme n'avoir jamais nié cette réalité, mais demeure détenteur des chiffres de la Côte d'Ivoire, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly au terme du Conseil des ministres hier. Et puis, les avocats de l'UEMOA organisent leur troisième congrès, le troisième congrès de leur union. Il s'agira de redéfinir les contours de la fonction dans cet espace en constante évolution, et ce jusqu'au 20 septembre prochain. Hors de nos frontières, au moins 12 militaires ont été tués dans 3 attaques distinctes au Niger. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix, 7 à 8 heures.